Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
40 ans après la mort mystérieuse de son père, Hossein Benedjahi, assassiné le 12 décembre 1975 à Bousfer, dans l'est de l'Algérie, Adila Benedjahizou, sa fille, décide de mener l'enquête. Elle retourne alors en Algérie, un pays qu'elle a quitté à l'âge de 5 ans. Après avoir examiné toutes les hypothèses qui lui ont été proposées par la famille de son père, par ses collègues, ses camarades de promotion, après avoir enfin rencontré le principal suspect qui remet en cause toutes les pistes précédentes, Adila se demande finalement si elle a eu raison d'enquêter sur ce meurtre. C'est le moment aussi de revenir à quelque chose de concret, comme un dossier, un papier avec écrit dessus quelque chose d'officiel, avec un tampon, une information en somme, à laquelle se raccrocher. Mais Année Boom, une enquête algérienne, c'est le 7e et dernier épisode de la première saison. Nous l'avons intitulé « Ceux qui déterraient les cadavres », où l'on découvre que la vérité est ailleurs. C'est une série d'Adila Benedjahizou. Vous écoutez France Culture, Les Pieds sur Terre, c'est jusqu'à 14h.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Nous, on est en train de faire des sit-ins pour demander le retour de nos enfants au foyer. C'est tout ce qu'on demande. Alors, je ne vois pas pourquoi les autorités ont peur des parents des disparus quand ils manifestent dans la rue. On ne demande que notre droit. On ne demande pas autre chose. On demande que nos enfants retournent au foyer, à leurs parents. On savait 22e année qu'on est en train de faire ces sit-ins à Douma.
On a toujours de l'espoir, mon fils. On vit d'espoir. Jusqu'au jour où on va mourir. Je ne sais pas si on va les revoir ou non.
Ça faisait déjà un bon mois où tu n'arrêtais pas de dire « Maman, papa est mort. Maman, papa est mort. »
C'était l'Aïd de... L'Aïd el-Kébir, c'était l'Aïd du sacrifice.
Comme quoi, la sensation de mort rôdait autour de nous.
Il a été assassiné chez lui.
Et les responsables, c'était des militaires, c'était pas des civils. Et s'il n'avait pas de problème avec personne.
Sauf qu'on n'a jamais su la vérité. Même celle-là.
En tant que Benedjahi, je peux te dire que ça a fait un gros boom dans la famille.
L'armée fait partie de la nation, fait partie du peuple.
Je me suis personne ne sait. Personne. Personne ne peut savoir ce qui s'est réellement passé.
Ça s'est passé comment, vous vous souvenez?
C'est tellement loin. Tellement loin. Plus de 40 ans. Hein.
Et Dieu seul le sait.
Ouais, Dieu seul le sait. Dieu et l'assassin.
Et l'assassin.
Depuis ma rencontre avec Hasdin Dahan, principal suspect dans la mort de mon père, j'ai atteint les limites de ce que je peux faire seule. Si je veux avancer, je ne peux pas me contenter du témoignage des gens. Je suis obligée d'en revenir à une démarche que je redoute et que j'avais écartée. M'adresser à l'armée pour demander le dossier de mon père. Outre de très solides préjugés contre les militaires en général, je me méfie de l'armée algérienne en particulier. L'ombre du colonel Boumediene continue à planer sur mes pensées. Mais comme je dois rentrer en France, je décide de tenter un truc. Je me présente au centre de recrutement d'Oran, au culot, pour réclamer le dossier de mon père sans préciser ce qui lui est arrivé. L'officier qui me reçoit m'annonce que le dossier se trouve à Alger. Il me certifie qu'on va me le donner, il s'en porte garant personnellement. Je n'arrive pas à croire à ma chance et ça me rend paranoïaque. Est-ce que ça ne serait pas un piège ? Avant ce rendez-vous fatidique, je décide de rencontrer des gens qui n'ont pas peur de demander des comptes à l'armée.
Bonjour.
Je viens voir Nasser Adito. Ils sont rares en Algérie, mais il y en a. Il s'agit du collectif Famille de Disparus. Ce collectif est constitué de parents, essentiellement des mères, de personnes qui ont disparu dans les années 90, pendant la guerre civile.
C'est bien de connaître déjà les circonstances.
La plupart de ces disparitions ont eu lieu suite à des arrestations.
Et même connaître le coupable, de toute
façon. Ici, il n'est pas bon, voire dangereux, de se plaindre de ce genre de choses. Mais il n'y a pas de gouvernement au monde qui ose maltraiter publiquement des mères qui ont perdu leur enfant.
C'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes. Je pense que vous devez vous poser quelquefois la même chose. Hein. Qui, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on a passé.
C'est le cas de Nassera Dutour, qui a fondé cette association après la disparition de son fils Amine en 1997. À l'époque, Amine a 21 ans et il habite à Alger avec son oncle, tandis que sa mère Nassera vit en France.
C'est le ramadan, hein. C'était le ramadan qui m'a donné le cas. Et donc on avait mangé, puis voilà, j'ai débarrassé, j'étais en train de faire la vaisselle, puis le téléphone il sonne. J'ai fermé le robinet, et je sais pas, qu'est-ce que j'ai compris. Je sais pas ce que j'ai compris, mais je sais que j'étais un peu assommée là, et voilà. C'est ma mère qui a répondu, ma mère était chez moi, elle s'apprêtait justement à repartir pour passer l'Aïd avec les enfants. J'ai envie, je me vois juste derrière le téléphone, en train d'attendre qu'elle se retourne et qu'elle me dise qu'est-ce qui se passe. Et puis après, dans ma tête, ça je sais pas, ça a explosé de toutes parts dans ma tête. Je voyais des étincelles dans ma tête, trucs, et puis d'un coup, j'entendais les sirènes, j'étais, je sais pas, j'avais comme un vertige, je sais pas, il y a quelque chose qui se passait dans ma tête, je me suis assise. Voilà, j'attendais de comprendre. J'entendais que Gérard qui parlait, qui disait « Mais quoi, Fatima, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, j'entendais que la voix de Gérard et la voix de ma mère qui lui répondait, mais j'entendais pas les mots, j'entendais que les sons. Et puis ma mère est repartie le lendemain, et je sais pas, le lendemain, je suis restée à la maison. J'attendais que le téléphone sonne. Je crois que j'ai dû rester comme ça 2 jours, dans un état second, où j'attendais que le téléphone sonne. En me disant que c'était une blague, c'était un cauchemar. J'allais me réveiller, je faisais la manger, je faisais le ménage, tout en étant dans un état second, quoi. Voilà. Pour m'occuper, j'ai acheté de la laine et des aiguilles pour tricoter. Je lui ai tricoté un pull. Je vois encore la pelote, la couleur et tout. Je me suis mise à lui tricoter un pull. Comme quand ils étaient petits. Parce que quand ils étaient petits, j'avais pas les moyens. Ma soeur et moi, on tricotait toujours leurs vêtements. Quand j'étais encore en Algérie, je me suis remise au tricot. Après, mon frère m'a dit non, tu viens pas, tu restes là-bas, il n'y a pas de problème. Je vais le retrouver, il n'y a pas de raison. Ça fait que 2 jours. Puis une semaine s'est passée, il ne l'a pas retrouvé.
Qu'est-ce qu'il a dit, votre frère? Qu'est-ce qu'il savait à ce moment-là?
Donc voilà, il a expliqué que... Amine dormait, il a dormi jusqu'à je ne sais plus quelle heure. Et puis après, il s'est levé, il se préparait. Voilà, il était dans la douche. Lui, il était très coquille. Il faisait la douche, il se parfumait, il se coiffait, il se faisait beau. Il se regardait à la glace 1000 fois avant de sortir. Ouais. Et puis... Enes, mon frère, avait tapé à la porte pour déloger, là, pour libérer la salle de bain. Parce qu'il dit toujours, je l'avais su, je l'aurais jamais sorti de la salle de bain. Et voilà, donc il est sorti de la salle de bain, il est sorti, il est allé voir ses copains. Il devait être 14h, 14h30. D'accord. Alors, il y en a qui disent qu'il devait aller au marché pour acheter des gourmandises, là, pour la soirée. Donc, en tout cas, il préparait sa soirée de ramadan avec D'accord. ses copains. Donc, il est allé voir ses copains. Après, mon cousin l'a vu quand il est revenu du travail. Il l'a vu à 16h dans la cité toujours. Wesh Amine, il lui fait wesh Amine. Alors Amine, qu'est-ce que tu fais? Il dit j'attends Sofiane, l'Ardouane, je ne me rappelle plus du prénom de son copain. Voilà, c'est la dernière personne à l'avoir vu. Bon, et puis on a appris plus tard par des témoignages, quand mes frères ont commencé à chercher, qu'une Nissan blanche est passée et qu'il l'a raflée.
Comme ça?
Ils l'ont raflé, la voiture s'est arrêtée à son niveau, ils sont descendus, ils l'ont empoigné, ils l'ont monté dans la voiture et ils sont partis. Ça s'est passé très vite. Après, mon frère m'a dit ça semble difficile, là, je n'ai pas de traces du tout. Et là, j'ai compris, j'ai commencé à avoir vraiment paniqué, à avoir plus peur. J'ai dit qu'il faut que j'y aille. Je suis allée à Opéra pour acheter mon billet à Air Algérie et j'ai pris l'avion, je suis partie. Donc voilà, j'arrive, le lendemain on va au commissariat. parce que le commissariat était en train de déménager. La plainte qu'ils avaient déposée, ils ne la retrouvaient plus. Voilà, il faut nous ramener d'autres photos. Donc je leur ai ramené d'autres photos. Puis j'ai commencé à bouger, j'ai demandé à voir le commissaire. Non, le commissaire, il n'y a pas ici, Tous les matins, je me levais et j'allais chercher mon fils. J'allais au commissariat presque tous les jours. Je faisais le tour des casernes. Dès que j'entendais parler d'une caserne, Châteauneuf, je n'ai pas tous les noms en tête, mais je les ai toutes faites. Après, ma mère et moi, on se partageait les tâches. Elle allait d'un côté, moi j'allais de l'autre. Après, j'ai commencé à contacter mes amis. Même ici en France, oui, j'ai été voir ma copine. Michel, je me suis dit, peut-être qu'elle va pouvoir m'aider. Elle connaît bien l'Algérie, elle a beaucoup de contacts. On était au syndicat ensemble, voilà. J'ai été très déçue. J'ai été très déçue de son silence, j'ai été très déçue. J'ai pas compris pourquoi. Après, j'ai compris d'où venait ce silence.
Alors, c'était
quoi ? Eh ben, s'il a été enlevé, c'est qu'il a fait quelque chose. C'était ça, ce que pensaient les gens.
Et vous, vous vous l'êtes posé la question ? Si on l'a enlevé, c'est qu'il a fait quelque chose.
Ben non, moi je me suis jamais posé la question parce que pour moi il n'a rien fait. Non, mais après c'était comme ça. Hein. Après 94, c'était tout le monde. Hein. Tout le monde était soupçonné d'être terroriste. C'était une grande confusion dans ma tête parce que tout ce que j'ai découvert sur ma route, tout ce que j'entendais sur ma route, c'était, ça avait plus qu'accablé. J'étais accablée déjà, j'étais dans un mauvais état. Et puis en plus, tout ce que j'entendais, par exemple, le neveu de ma copine là qui me raconte, oui, on torture, bien sûr qu'on torture. Et alors, il faut bien qu'ils avouent. Moi, on m'appelle, tu vas à tel endroit, tu ramènes telle personne, j'y vais avec mon équipe, on va à tel endroit. Après, on l'emmène à l'interrogatoire. Et puis après, pour qu'il avoue, on la met en salle de torture. Alors, c'était que des choses comme ça. Le commandant là, de gendarmerie qui me raconte qu'il a tué des gens. Oui, un artilte. Moi, j'ai tué. Et je suis allée frapper à la porte de leur mère. Et je leur dis, venez ramasser votre chien de fils. Venez, oui. Des trucs comme ça que j'entendais. Oui. Ouais, j'ai entendu plein de choses comme ça. Et en plus, sur ma route, quand je cherchais mon fils et voir tout ça, et rencontrer des milliers de familles, je ne m'attendais pas à voir autant. Je ne m'attendais pas au tribunal militaire de Blida, la queue, elle était d'un kilomètre. Je me rappelle, ma mère, elle me dit, quand la première fois qu'on y est allé, elle me dit, bah, tu vois, tu ne veux pas te lever, toi, le matin, tu ne te lèves pas le matin. Je t'ai dit qu'il faut partir de bonne heure, voilà, maintenant, on va rester sous le soleil. Tu vois, ouais, ça de m'engueuler. Et puis, la fois d'après, on est parti très tôt, ben, il y avait aussi la queue, pareil. Quand je suis revenue en France, j'en pouvais plus. C'est bon, j'étais usée, j'avais dépensé tout ce que j'avais comme énergie, tout ce que j'avais comme force, tout ce que j'avais comme réflexion. J'avais plus rien, j'étais une loque. Après, je suis allée voir le médecin, il m'a donné une tonne de médicaments, je passais mes journées à dormir dans le noir, je débranchais le téléphone, je voulais plus entendre rien. Et après, un jour, Amine est venu dans mes rêves et il m'a secoué. Il me criait dessus. Ouh, ça, j'ai jamais oublié ce rêve. Je te dis que je suis là. Et puis, je me suis réveillée vraiment. Voilà. J'ai compris qu'il fallait se lever. Voilà. J'ai mis mes médicaments à la poubelle et je me suis levée. Et depuis, c'est parti. L'idée de l'association, elle est venue progressivement. L'histoire commence au tribunal Harrach où il y avait tous les dimanches, j'allais pour, comme tout souvent, toutes les mères, voir ces jours d'audience. Donc j'allais voir le procureur pour voir s'il y avait des nouvelles de mon fils, s'il avait ordonné l'enquête, qu'est-ce qu'avait donné l'enquête et tout ça. Et puis j'avais remarqué, en entrant sur la droite, il y avait un pan de mur là où je trouvais toujours ces femmes assises. Et au bout d'un moment, on se rend compte que c'est les mêmes. Donc un jour, je me suis assise à côté d'elles et j'ai été discuter avec ces femmes. Et donc, j'ai dit, je vais prendre des informations. J'ai sorti un bout de papier, je commençais à prendre des informations. Et voilà, je leur ai dit, voilà, je vais envoyer ces informations à Amnesty International, si vous permettez. Chacune a dit sa façon. Il y en a une qui m'a dit, tu es folle, toi. Comme ça, je me rappelle. Et c'est parti de là. Et puis, le dimanche d'après, je lui dis, qu'est-ce que vous pensez que, voilà, on est là. Pourquoi est-ce qu'on va pas voir tous ensemble le procureur? Nos enfants ont disparu presque dans les mêmes circonstances. On va monter voir le procureur. On fait un peu de chrlala là-haut. Et puis, et truc. Et c'était l'idée qui était partie comme ça. Et bon, ben, tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur à l'époque. Non, 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 nous, on n'est pas venu faire de chrlala. Nous, on attend de voir s'il y a quelque chose. Des fois, il y a des listes. Des fois, on trouve des noms de personnes qu'on connaît et tout. Donc, elles n'ont pas voulu. Et puis, elles avaient peur. Elles avaient peur. Donc, quand je suis revenue en France après mes 6 mois de galère, j'ai fait du porte-à-porte d'abord ici. Et j'ai été voir chez ces familles, chez elles. Donc, je leur ai expliqué ce que c'était que le questionnaire de l'ONU que moi, j'avais découvert à mes dépens. Je ne connaissais pas avant. D'accord. Le questionnaire du groupe Travail sur disparition forcée. C'est un questionnaire qui reprend toutes les informations de la personne disparue, l'état civil, la date de disparition, les auteurs de l'enlèvement, les circonstances de l'enlèvement. Et voilà, donc il y a plusieurs critères de recevabilité. Et donc, on envoie ce dossier au gouvernement algérien. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 3000 dossiers qui sont pendants, c'est comme ça qu'on appelle ça, devant le groupe Travail sur disparition forcée des Nations Unies.
Il y a des gens qui disent que, justement, pour pouvoir aller de l'avant, construire un nouveau pays, il vaut mieux oublier tout ça. Il ne faut pas essayer de faire parler les gens. Il faut oublier les années noires et ne pas les évoquer. Ce serait mieux pour la réconciliation nationale.
Vous savez, j'imagine le passé, quand on parle de ce passé-là, et qu'il faut oublier, tourner la page. Et... En fait, je l'imagine comme si on était en train d'enfuir, d'enterrer quelque chose, mal l'enterrer, et qu'un jour, ce passé va bouillir, et puis va nous exploser à la gueule. Excusez-moi du terme, mais qui va nous exploser à la gueule. C'est ça, le passé. Moi, pour moi, le passé, il ne doit pas être derrière. Il doit être devant. Il faut que les Algériens soient conscients de leur passé et qu'ils acceptent leur passé pour pouvoir aller de l'avant. Le passé doit être écrit, on doit l'avoir toujours devant nous. Comme ça, on le regarde et on dit, bon, ben, on a fait des erreurs, il faut pas recommencer. Parce qu'on l'entend depuis que Bouteflika est arrivé au pouvoir. Là, c'est les fêtes mettes, les hommes de Wolosofha. Le passé est mort, les fêtes mettes, le passé est mort. Il y a que lui qui meurt pas. Le passé est mort, il faut tourner la page, c'est terminé. Il nous a présenté ses condoléances, les disparus sont tous morts. Et tout, et depuis qu'il est arrivé, il faut tourner la page. Oui, mais je tournais la page, mais comme diraient d'autres, depuis 62, on n'arrête pas de tourner des pages. Quand est-ce qu'on va finir de l'écrire, ce livre?
France Culture, les pieds sur terre.
D'accord, oui, je sais. Radio des Sans Voix.
Donc c'est ça. On
d'accord.
A six émissions. En
fait. Ok. Depuis la création de l'association, de minuscules victoires ont été obtenues. L'association a créé une web radio pour recueillir les nombreux témoignages de disparition. Après plusieurs années de requêtes, le gouvernement algérien a officiellement reconnu plusieurs milliers de disparus et propose aux familles d'être indemnisées. Mais dans le cadre d'une politique de réconciliation nationale, il est demandé aux familles de déclarer le décès du disparu pour pouvoir obtenir cette indemnisation.
Ça, c'est les dossiers du disparu. Alors, Benjaïl...
Ah oui, il y en a plein.
Il y en a plein. Nous avons 5400 dossiers documentés de disparu. Ça, c'est le dossier de Nadia Benjaïl.
Quand j'ai rencontré Nadia, qui a refusé l'indemnisation, son histoire m'a frappée.
Il est sorti et puis revenu.
Mourad, le frère de Nadia, a disparu en 1994. Peu après, la police a déclaré qu'il était décédé. Mais le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à savoir ni quand il est mort, ni où il a été enterré.
Voilà, tu m'as dit, malheureusement, madame, j'ai des mauvaises nouvelles. Votre fils a été abattu à la Casbah le 28 mai 1994. Il dit, c'est tout ce que j'ai comme nouvelle à vous dire. Il me dit, alors où est-ce qu'il est enterré? S'il est mort, je voudrais bien connaître sa tombe. Il m'a dit, madame, malheureusement, je ne peux rien vous dire. Il est juste décédé dans le dossier que m'a ramené la police. Elle lui a dit, je veux vraiment la vérité.
Il faut savoir que le propre frère de Mourad l'a vu en prison le 3 juin, après la date officielle de sa mort annoncée.
En 2006, on a demandé une enquête aux gendarmes. Ça n'aboutit à rien. On a fait d'autres demandes. On a encore écrit à la police, à la gendarmerie, au tribunal. Encore et encore. Ça n'aboutit à rien. en 2012.
Nadia et sa mère continuent leur recherche sans succès jusqu'en 2012, où Nadia décide d'elle-même d'aller au cimetière municipal pour vérifier si son frère n'y serait pas enterré.
Je suis partie au cimetière de l'Ain, j'ai trouvé une personne, je lui ai demandé, voilà, j'ai un frère qui est décédé en 94, je ne me rappelle plus où est sa tombe. Elle m'a dit, d'accord, elle a cherché, elle a trouvé qu'il est décédé le 12 août 94. Et c'est une autre date de décès aussi. Elle m'a donné le numéro de la tombe, le numéro du carré où il est décédé. J'ai cherché partout le carré, je ne l'ai pas trouvé. Après, j'ai demandé à un employé du cimetière, ils m'ont vraiment aidé, ils ont cherché le carré, ils l'ont trouvé. Puis il n'y a pas de nom sur les tombes, la plupart des tombes. Il m'a dit, si vous avez le numéro, j'ai donné. Il a commencé à compter les numéros de tombe, il m'a dit, c'est là. Il m'a dit, c'est qui? J'ai dit, c'est mon frère. Il m'a dit, c'est ça la tombe de votre frère. Pas d'erreur, c'est lui, né le 12 août 94, décédé le 12, enterré le 14 août. Et j'ai vu le nom du bonhomme qu'il a...
De la personne
qui a déclaré mon frère décédé. Je lui ai demandé qui c'est ce bonhomme, il s'appelle Tahar Bayo. J'ai pris son adresse, c'est un employé de la morgue. Je suis partie chez lui, il m'a ouvert la porte, c'était lui. Je lui ai montré l'acte de décès, je lui ai dit, c'est vous ça? Il m'a dit, oui, c'est moi. Je lui ai dit, de quel droit vous déclarez mon frère décédé? Il m'a dit, ce qu'on nous demande, on nous ramène les morts, et qu'il reste un an, 3 mois, 6 mois à la morgue, et personne ne les réclame. On est obligé de demander des autorisations chez le procureur pour qu'on en les enterre. C'est le procureur d'Alger, tribunal d'Alger, qui lui a donné l'autorisation pour l'enterrement. Il m'a dit, il est mort le 7 juillet 1994. Et encore une autre date. Alors, il est mort le 28 mai. Il est mort le 12 août. Le bonhomme de celui-là, Tahar Bayo, il m'a dit, ne croyez pas toutes les dates. Je vous dis, c'est la vérité. Il est mort le 7 juillet. Après ça, quand on a écrit la gendarmerie, la gendarme nous a répondu. Il m'a dit, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre frère est décédé au maquis. Il a été abattu par l'armée. J'ai dit, vous êtes normal, vous? Combien de fois il meurt? On n'est plus reparti à la gendarmerie et on a fait des dépositions auprès du tribunal d'Alger pour l'exhumation du corps. Si c'est vraiment, on a demandé l'examen d'ADN. Et l'exhumation, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup d'espoir parce que je ne pense pas que ce sera facile pour l'État algérien de donner l'autorisation pour exhumer un corps. Parce qu'il y a eu d'autres qui ont dit que vos enfants sont enterrés au cimetière de l'Alia. Mais ils n'ont pas trouvé la tombe, ou bien ils ont trouvé la tombe avec deux personnes ensemble, ou bien quelqu'un que j'ai entendu parler qu'on a déclaré son fils décédé, qu'on avait enterré ici. Le pauvre, ils sont partis au cimetière pour construire la tombe, et trouvent une autre dame qui pleurait sur la tombe. Il lui a dit, madame, qu'est-ce que vous faites ici? Il lui a dit, c'est mon fils qui est mort là. Il lui a dit, c'est le mien qui est mort ici, c'est pas le vôtre. Il lui a dit, non, on m'a dit que c'était ici. Il lui a dit, non, c'est... Alors tellement qu'il a été énervé, le bonhomme, il a déterré le... Il a ouvert la tombe tout seul.
Il a déterré le cadavre.
Il ne savait même pas comment il a fait ça. Et il a déterré. Je vous assure, il a ouvert la tombe. C'était ni son fils à lui, ni à elle. D'un côté, ça fait 22 ans qu'il a disparu. Ma mère, elle meurt à petit feu. Elle m'a dit, je voudrais bien savoir la vérité avant que je meure. Parce que vraiment, sa santé, elle est très très malade. Je voudrais bien savoir, une fois pour toutes, que ce soit lui. Comme ça, elle part en paix.
Aujourd'hui, en Algérie, il y a deux sortes de gens. Des gens qui veulent déterrer les cadavres et d'autres, bien plus nombreux, qui veulent qu'ils restent enterrés. J'ai la chance de savoir où mon père est enterré.
C'est le carré des Benedjaï. Toute la famille.
Il a été inhumé à Batna, dans le carré des Benedjaï.
Benedjaï aussi, né le 4-5-48, décédé le 23 12.
Mais en recherchant les circonstances de sa mort, je bascule forcément du côté des nécrophiles, ceux qui ne veulent pas laisser les morts reposer en paix. Quelques heures avant mon vol pour Paris, je me présente au siège de l'Armée nationale populaire pour récupérer le fameux dossier. J'ai l'impression d'être dans un film d'espionnage. Est-ce que je vais enfin avoir de vraies infos ou est-ce que je vais finir dans une salle d'interrogatoire ? Comme on est dans la vraie vie, évidemment, c'est ni l'un ni l'autre. Personne ne se méfie de moi et en fait de dossier, on me tend une feuille A4 au nom de Hossein Benedjahi, numéro de matricule 70-019-28937. C'est un avis de radiation qui sert à prouver qu'il a rempli ses obligations militaires. Dans la case « Motif de radiation », c'est écrit « Décédé ». Rien que je ne sache déjà.
Si j'aurais été bien, tu t'es allé à Batna ?
Ben ouais, j'ai continué mon enquête.
La conclusion, tu veux ?
La conclusion, c'est que j'ai un petit peu avancé, mais pas beaucoup.
Ben, très bien. Mais on sait que tu avances.
Je ne sais pas exactement ce que je suis venu chercher en Algérie. Mais une chose est sûre, je ne l'ai pas trouvé. Pourtant, j'ai trouvé des choses. Une famille, des histoires de famille, et un numéro de matricule. Je crois que c'est suffisant pour que j'aie envie de revenir.
I know that this may come out wrong, but sometimes wrong is what we need.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, mes années boom, une enquête algérienne, le 7e et dernier épisode de cette saison, dont on espère que c'est seulement la première. Ceux qui déterraient les cadavres, c'est comme ça que s'appelle cet épisode. C'est une série d'Adila Benedjaizou réalisée par Marie Placet avec Emmanuel Geoffroy pour ce dernier épisode. Merci à Nassera Dutour, à Nadia Benjal, à Jamel, au chauffeur de taxi des Glycines, au collectif des familles de disparus ainsi qu'à la radio des Sans Voix pour l'ensemble de cette première saison. Merci particulièrement à Safia Areski, Olivier Prieur, Yael Goujon, Victor Castanet, Jean-Yves Joannet, Gilles Lavanan pour la musique du générique dont de nombreux auditeurs nous demandent les références. Cette série, sachez-le bien, est particulièrement dédiée à Richard Zou et à Chami Benedjaizou. Si vous voulez tout réécouter plusieurs fois ou autant de fois que vous le souhaitez, n'hésitez pas à podcaster la totalité de cette saison. Vous allez sur votre appli de podcast, sur iTunes, sur Podcast Addict, sur ce que vous voulez. Vous tapez mes années, boum, et hop, tout sera téléchargé sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Nul ne l'ignore. Olivia Garrigue, c'est notre stagiaire en ce moment.